Libre Radio, le côté obscur de la radio. Retrouve les directs, les podcasts et la newsletter sur www.libradio.org.
Bonjour Pierre Bretin.
Bonjour.
Merci beaucoup de me recevoir. Nous sommes le matin du 12 septembre 2019 et nous nous trouvons à l'Observatoire astronomique de Genève situé à Versoix. Est-ce que vous serez d'accord de vous présenter ? Vous avez travaillé pour Le Temps, vous avez travaillé en Argentine pour la radio suisse romande.
Oui, bien écoutez, en fait moi j'ai fait mes études standards à Genève, l'école polytechnique. Le métier d'ingénieur n'étant pas pour moi, je suis retourné à la faculté pour faire des études d'astronomie. Et puis après 10 ans à l'observatoire, j'ai été travailler à la radio, d'abord comme journaliste scientifique, puis comme correspondant en Argentine. Et maintenant, je m'occupe de toute la partie communication et outreach, pour utiliser un terme à la mode, pour le pôle de recherche national sur les exoplanètes, qui a débuté il y a 5 ans maintenant.
Mmh. Et donc, vous êtes dirigé vers le journalisme. Pourquoi chercher à rendre la science accessible au plus grand nombre ?
Disons que je pense que de comprendre... Les enjeux scientifiques qui sont posés à l'être humain est quelque chose qu'on ne peut pas partager. On sait que savoir, c'est pouvoir. Or, si on laisse ce pouvoir aux mains de certains, on est vite dépassé par les événements. Je prends par exemple le réchauffement climatique. Les scientifiques, là, sont sortis, ont communiqué, et maintenant, c'est vrai que la population est au courant, enfin, j'espère, de ce qui se passe. Donc, rendre la science intelligible pour tous est quelque chose de fondamental pour l'être humain.
Et puis, qu'est-ce que l'astrophysique peut apporter à la communauté ?
L'astronomie ou l'astrophysique est certainement la plus vieille science qui existe. L'homme s'est toujours posé la question, en regardant le ciel, de savoir « mais est-ce que je suis tout seul dans cette immensité ?» Et au-delà de la question philosophique, savoir si on est seul ou pas, ça nous permet aussi de comprendre notre monde, notre environnement, et aussi de s'émerveiller un peu quand même.
Là, vous êtes en train de travailler pour une exposition qui aura lieu à Plainpalais, pour parler en fait de Khéops. Qu'est-ce que Khéops ?
Alors, c'est Khéops en partie. Ce qu'on voulait montrer, c'est surtout les instruments qu'utilise la Suisse dans la recherche fondamentale et principalement dans la recherche sur les exoplanètes. La première a été trouvée ici, à Genève, par Michel Mayor en 1995. Depuis, il y a à peu près 4000 astronomes maintenant qui travaillent sur les exoplanètes. Il va y en avoir 2000 qui vont se réunir à Genève dès la semaine prochaine. Des astronomes qui s'occupent uniquement d'exoplanètes. Et donc, bien sûr, on s'est dit, bon, on va faire participer un peu la cité à cet événement, à ce grand congrès qui a lieu à Genève. Alors, comment faire participer ? Eh bien, on a décidé de montrer deux instruments phares de l'astronomie, deux instruments qu'utilisent les astronomes suisses et genevois. Ce sont, un, le VLT, le Very Large Telescope, qui est installé au Chili, qui est un télescope de 8 mètres de diamètre, qui fait à peu près 15 à 20 mètres de haut. Et là, on a la reproduction de la structure à l'échelle 1-1, donc c'est une structure qui est vraiment impressionnante. Et puis, l'autre instrument qu'on veut montrer à la population, c'est Khéops. Alors, Khéops, c'est le premier satellite de l'Agence spatiale européenne qui est fabriqué sous leadership suisse. C'est donc la Suisse qui a fait la proposition et qui est responsable de la construction de ce télescope. Alors, il a été construit, il a été construit à Berne, et les données scientifiques vont arriver ici à l'Observatoire de Genève. Et ce satellite a pour but de mesurer la taille d'exoplanètes pour pouvoir ce qu'on appelle les caractériser. C'est-à-dire qu'on va regarder des exoplanètes dont on sait qu'elles existent, dont on connaît la masse, et avec Khéops, on va pouvoir mesurer la taille et donc de savoir si elles sont rocheuses, gazeuses, d'eau, de carbone et que sais-je encore. Mmh.
Donc il y a une petite éclipse qui se forme quand la planète passe auprès de son Soleil.
Alors c'est ça, Khéops utilise la méthode qu'on appelle la méthode des transits. Donc effectivement, quand la planète passe devant son étoile, elle crée une baisse de luminosité de l'étoile qui est détectable par un télescope. Alors évidemment, si on a une grosse planète comme Jupiter, c'est assez facile, entre guillemets, à détecter. Mais si on a une Terre qui passe devant son étoile, c'est très difficile parce que la baisse de luminosité est infime. Pour la Terre qui passe devant le Soleil, c'est à peu près 0,01%. Donc il faut un appareil très sophistiqué et surtout il faut aller dans l'espace parce que sinon sur Terre, on n'a pas, l'atmosphère nous gêne et on ne peut pas obtenir cette précision.
Est-ce que c'est une technique révolutionnaire? Est-ce que ça va révolutionner l'astrophysique, ce satellite?
Alors, ce n'est pas une technique révolutionnaire, parce que la méthode des transits, on la connaît bien. Ce qui est révolutionnaire dans l'approche de Khéops, c'est la précision avec laquelle on va pouvoir mesurer la taille de toute petite planète comme la Terre. Parce que le but ultime de tout ça, c'est d'essayer de trouver une planète rocheuse, petite comme la Terre, et d'abord, avant de se dire oui, qu'il y a de la vie, s'il y a une atmosphère, et s'il y a des gaz qu'on appelle des biomarqueurs dans cette atmosphère, c'est-à-dire l'oxygène, la vapeur d'eau, etc., et après, éventuellement, découvrir de la vie. Mais bon, ça, on n'y est pas encore.
Juste pour les auditeurs qui ne s'y connaissent vraiment pas, l'exoplanète, donc c'est des planètes qui sont hors de notre système solaire.
Les exoplanètes, oui, c'est ça. Ce sont des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil et qui sont dans notre galaxie, la Voie lactée. Alors maintenant, on est à peu près convaincu que toutes les étoiles ont des planètes. Alors, il y a peut-être quelques pourcents qui n'en ont pas. Donc imaginez qu'en 1995, on n'en connaissait qu'une. Maintenant, on en a découvert plus de 4000. Et dans notre galaxie, il y a à peu près 300 milliards d'étoiles. Donc il y a en tout cas, si ce n'est plus, 300 milliards de planètes dans notre galaxie. Et on a observé juste une toute petite fraction de notre galaxie. Hein. La galaxie, elle fait 100 000 années-lumière de diamètre. Et là, on a peut-être trouvé des planètes sur des distances de quelques centaines d'années-lumière. Hein.
À votre sens, il y a de la vie?
99% des astronomes sont convaincus qu'il y a de la vie ailleurs. Alors maintenant, de la vie intelligente, c'est une autre question, mais de la vie sous forme bactérienne. Il n'y a même peut-être pas forcément besoin d'aller sur des exoplanètes. Hein. Je veux dire, on commence à avoir des doutes sur des satellites de Jupiter, comme Europe, qui contient un océan liquide, ou sur Encelade, où on a vu des geysers d'eau sortir, donc un satellite de Saturne. Donc il y en a peut-être plus. Alors, ce serait peut-être sous forme bactérienne, hein, mais il y a peut-être de la vie beaucoup plus près que ce qu'on pense.
Et quel est votre rapport à Dieu? Parce que si on pense à la vie, on pense à un créateur, etc. Est-ce qu'il y a une divinité, vous pensez derrière?
Ah, je pense que la plupart de mes collègues et moi-même pensons qu'il n'y a pas de créateur. Bon, on peut discuter. Hein, vous savez, c'est toujours la même chose. Quand on ne connaît pas ou quand on ne sait pas, on fait appel à des choses mystiques. On ne savait pas qu'il y avait des exoplanètes il y a 25 ans. On ne savait pas qu'il y avait des galaxies il y a 250 ans. On ne savait pas que... Donc, au fur et à mesure que la science et la recherche avancent, on repousse à chaque fois les limites de la connaissance et ça permet peut-être un jour de comprendre comment la vie est née, comment on commence à avoir des hypothèses et des explications sur la naissance de l'univers. Donc, voilà, c'est des fois, c'est un peu une solution de dire, ben voilà, ça... Comment dire ? On ne comprend pas, donc on trouve une solution qui nous satisfait comme ça.
Pour en venir à Khéops, il y a des phases de test qui se passent en Espagne.
Alors Khéops a été construit, donc assemblé à Berne. Le satellite, donc ça c'est le télescope, le satellite a été assemblé en Espagne. Maintenant il est prêt, à être envoyé. Donc il va partir pour Kourou, je ne sais pas quand. Normalement c'est fin décembre, il s'envole pour son orbite. Voilà, on espère que tout va bien se passer. Hein. Maintenant, il y a des gens qui travaillent dessus, donc je pense principalement à Willy Benz, le responsable de l'engin qui est à Berne. Il a travaillé des années et des années là-dessus. C'est vrai que la tension commence à monter.
Puis pour découvrir un exoplanète, il a fallu combien de temps ?
Il a fallu, en fait, il a fallu beaucoup d'imagination. Il a fallu à Michel Mayor, comment dire, de persévérer dans une idée qu'il avait pour trouver un instrument qui lui permettait de trouver des exoplanètes. Puis après, il lui a fallu de la chance. Mais une fois qu'on a trouvé la première, on a dit que la technique fonctionne. On sait comment il faut faire, on sait quel genre d'étoile il faut observer. Et après, ça a été, disons que ça a été l'ouverture à des découvertes successives et successives. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est plus tellement de la découverte. C'est de savoir comment elles se sont formées, comment elles se distribuent, comment elles évoluent, leur composition chimique. On a trouvé des exoplanètes qui perdent leur atmosphère. On a trouvé des exoplanètes qui tournent autour de deux étoiles. On a trouvé des systèmes planétaires, par exemple, je pense à TRAPPIST-1, qui c'est sept petites planètes de la taille de la Terre à peu près qui tournent autour d'une toute petite étoile. On est en train de se rendre compte que la nature, enfin, on n'imaginait pas du tout tout ce qu'on est en train d'observer maintenant.
Toutes ces études se font ici à Genève.
Disons que bon, il y a plusieurs instituts dans le monde qui travaillent sur les exoplanètes. Maintenant, on a les Américains ont envoyé des télescopes, nous on va envoyer KEOPS, les Européens vont envoyer Plato, qui est un télescope aussi pour trouver des exoplanètes. Maintenant, c'est vrai qu'on n'observe pas à Genève. Il n'y a aucune observation qui sont faites ici parce que, il ne fait pas beau.
Ah.
C'est la raison principale. Il y a la pollution lumineuse et puis il y a des nuages. Donc, tous les grands instruments sont soit à Mauna Kea pour les Américains et les Français, soit dans les Canaries pour les Européens, donc ça c'est l'hémisphère nord, soit alors dans l'hémisphère sud, en général ils sont au Chili. On fait beaucoup beaucoup d'observations. Et on a par exemple notre propre télescope qui est au Chili, c'est donc le télescope suisse, le télescope de l'Université de Genève, où il y a tout le temps quelqu'un de l'Université de Genève qui est là-bas. Là. Moi j'y vais une fois par année pour aller observer. C'est un petit télescope, il fait 1,20 m de diamètre, mais quand même... On fait quand même de la science très intéressante avec. Par exemple, comme c'est le nôtre, ça nous permet de suivre des étoiles pendant des années et des années, ce qu'on peut difficilement faire avec des très grands télescopes qui coûtent très cher. Donc ça c'est le nôtre. Autrement, on utilise le VLT, celui qui va être reproduit sur la plaine de Plainpalais. Le VLT qui nous permet, lui, alors de faire des observations de mesurer des masses donc d'exoplanètes aussi petites que la Terre. Donc, vous voyez, on a deux pôles. On a les observations au sol qui permettent en général de trouver des masses d'exoplanètes et les observations dans l'espace, ou certaines au sol, qui nous permettent de trouver la taille. Et quand on a la masse et la taille, on a la densité, donc on peut savoir de quoi elles sont faites.
Donc il y a des autres satellites qui ont précédé en fait KEOPS.
Oui, alors il y en a un qui s'appelle KORO, qui était le premier satellite qui a utilisé la méthode des transits pour découvrir des exoplanètes.
Et c'est quoi la méthode des transits ?
C'est justement cette technique qui permet de découvrir une exoplanète parce qu'elle passe devant son étoile et crée une mini-éclipse. Donc ça, c'était KORO, le premier qu'on a découvert plusieurs dizaines. Et après, les Américains ont lancé Kepler, qui lui a trouvé des milliers de candidats exoplanètes. Donc maintenant, plus de la moitié des exoplanètes découvertes ont été faites par Kepler. Donc on a des instruments dans l'espace pour trouver ces exoplanètes.
Et qu'est-ce qui est nouveau avec KEOPS ?
À KEOPS, il n'y a rien de nouveau. KEOPS, comme je vous le disais, c'est pour mesurer la taille d'exoplanètes dont on sait qu'elles existent. Mais on aimerait les mesurer de manière très précise pour pouvoir bien les caractériser et bien mesurer leur densité. Ce sont des planètes qui ont été découvertes par une autre méthode, donc on sait... qu'on appelle la méthode des vitesses radiales, qui a été utilisée par Michel Mayor. La méthode des vitesses radiales, c'est on utilise en fait l'influence gravitationnelle de la planète sur son étoile. La planète, quand elle tourne autour d'une étoile, Jupiter, quand il tourne autour du Soleil, eh bien, il fait bouger le Soleil. Et ce petit mouvement induit par la planète sur son étoile est mesurable, c'est par la méthode qu'on appelle des vitesses radiales. Et donc, on a trouvé plein d'exoplanètes comme ça, dont on connaît la masse, mais on aimerait la taille. Et là, on va utiliser Khéops. Et quand on a la masse et la taille, eh bien, on pourra savoir de quoi elles sont faites.
Et vous êtes une communauté de combien de personnes ?
Ou ici, à l'observatoire ?
Non, ceux qui sont derrière le projet Khéops.
Ah, ou là, il y a beaucoup de monde. Hein. Si on compte astronomes, ingénieurs, techniciens, toute la partie administrative, je ne sais pas, ça fait au moins 150 personnes. Après, il y a encore des gens à l'ESA, parce que la Suisse va construire, enfin, va diriger la construction de ce satellite. Mais après, il y a toute la phase de lancement qui, elle, est prise en charge par l'Agence spatiale européenne. C'est à peu près la moitié du budget de la mission. Hein. On espère caractériser une dizaine de terres. C'est pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup. Khéops, la mission doit durer 3 ans et demi. Elle est financée pour 3 ans et demi. Selon, après, les questions financières, scientifiques, si ça marche bien, etc., on pourrait la prolonger encore d'une année et demie. Et il y a à peu près quelques milliers, peut-être 1000 ou 2000 étoiles qui vont être étudiées par Khéops. Et là, on espère... Ça, alors, peut-être qu'on aura des surprises, hein, on espère. Toujours, quand on envoie un nouvel instrument, on a des surprises. Hein. Donc là, peut-être qu'on en aura des belles, quoi, je ne sais pas.
Et quelles sont les activités qui ont lieu ici à l'Observatoire de Genève ?
À l'Observatoire, on a, comment dire, il y a plusieurs domaines de recherche. Hein. Il y a le domaine des galaxies lointaines, où les gens cherchent à comprendre comment les galaxies se sont formées au début de l'univers, après la naissance de l'univers. Là, il y a tout un groupe qui travaille là-dessus, qui est très actif. Il y a un autre groupe qui cherche à comprendre comment évoluent les étoiles, ce qu'on appelle l'évolution stellaire, hein, comment naît une étoile, comment elle se forme, comment le Soleil s'est formé. Le Soleil, il a 4 milliards et demi d'années, dans 4 milliards d'années, il va gonfler, il va devenir tout rouge. Donc comment ça se passe, quelles sont les échelles de temps, ça c'est ce qu'on appelle l'évolution stellaire. Et puis il y a un autre groupe qui lui s'occupe alors des exoplanètes. Et là on est, la co-leading house du pôle de recherche national sur les exoplanètes. Donc le Conseil fédéral a décidé que la recherche sur les exoplanètes était un axe stratégique de recherche et a donné de l'argent pour développer un pôle de recherche national dont la direction est à Berne et la co-direction est à Genève. Donc ça nous permet d'engager beaucoup de chercheurs, aussi bien à Genève qu'à Berne, sur les exoplanètes. Et tout le bâtiment qui est là, il y a une aile complète qui est dédiée aux exoplanètes. Donc là, il y a beaucoup de chercheurs sur les exoplanètes.
Et votre contact avec le public, vous essayez d'amener cette recherche, de vulgariser cette recherche, de démocratiser cette recherche.
C'est un des mandats du gouvernement, du Conseil fédéral, c'est communiquer la recherche qu'on fait en Suisse. Et le directeur et le co-directeur du pôle de recherche national a voulu une équipe assez forte pour faire la communication et montrer aux gens ce qu'on fait. Et ils sont deux à Berne et moi je suis à Genève pour ça. Et on fait des expositions, on a des contacts avec la presse, on se présente dans des congrès ou des choses comme ça. Et par exemple, on a fait là, c'était quand au mois de novembre l'année passée, la Cité des Métiers, où on était des invités d'honneur, et donc on avait un grand stand, on a montré ce qu'on faisait, parce que on se rend compte que la majorité des gens ne savent même pas qu'on existe, quoi. Donc c'est vraiment il y a beaucoup de, faut y aller, quoi.
Je pense que la question qu'on se pose la plupart des gens, c'est un peu nos origines.
Nos origines, oui. La question que je le disais au début, hein, que se pose l'être humain depuis qu'il est être humain, quoi. Sommes-nous seuls dans ce grand bazar ?
À votre avis, non.
Non.
Mais il y aurait une forme d'intelligence qui
pourquoi pas
ressemblerait.
Oui, moi ça ne me choquerait pas. Ce qui se passe, c'est que la galaxie est tellement grande, compte 100 000 années-lumière des diamètres. Si y a une civilisation qui se développe à 500 années-lumière, les messages qui doivent nous parvenir ont mis 500 ans pour venir jusqu'à nous. Et en plus, si par hasard on les capte, il faut qu'on leur, si on leur répond, ça va mettre 500 ans. Est-ce que pendant ce laps de temps, donc ces 1000 ans qu'a pris le message pour faire l'aller-retour, cette civilisation intelligente ne s'est pas auto-détruite comme on est en train de le faire d'ailleurs. Hein? Voilà, il y a toute cette considération de temps et de distance qui fait que s'il y a une civilisation intelligente quelque part, il faut d'abord qu'on soit complètement synchronisé, pas trop loin, donc ça sera très 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 difficile de rentrer en contact avec ces êtres vivants.
Est-ce qu'il y a des pistes de réponse sur comment s'est formée la galaxie, etc.
Ah oui, alors ça, on sait comment se sont formées les galaxies, on commence à avoir des scénarios de formation qui sont très...
Il y a un début précis ?
Il n'y a pas de début précis. Ce qui se passe, c'est que quand l'univers est né, c'était un univers homogène et il y a eu des fluctuations qui ont fait que le gaz qui était très chaud au départ s'est formé en espèce de grumeaux et les premières étoiles qui étaient gigantesques se sont formées, les galaxies aussi. Et après, il y a eu une évolution qui a fait que les galaxies sont devenues ce qu'elles sont devenues. Donc le scénario de formation des galaxies, on commence à le connaître à peu près correctement. Il y a encore plein d'interrogations, bien sûr. Mais
il y a des pistes vraiment très claires, très précises. Ouais, ouais.
C'est un peu compliqué. On sort peut-être du cadre.
Est-ce que vous pensez que ça va être possible de regarder notre passé en s'appuyant sur des technologies en astrophysique ?
Regarder notre passé, non.
C'est-à-dire
que...
de voir comment nous, on était il y a 1000 ans ou 2000 ans.
Non, parce que l'information, elle est partie il y a 1000 ans. Donc, voilà, il faudrait la rattraper, donc aller plus vite que la lumière. Pour le moment, ce n'est pas possible. En fait, c'est une des constantes de la physique. La vitesse de la lumière est franchissable. Maintenant, on dit que les télescopes sont des machines à remonter le temps parce qu'ils permettent de voir... En fait, quand on reçoit de la lumière d'un astre qui est à 500 années-lumière, eh bien, la lumière a mis 500 ans pour nous arriver. Donc, on voit l'astre tel qu'il était il y a 500 ans. Peut-être qu'il s'est éteint, mais on le saura dans 500 ans. Si le Soleil devait s'éteindre maintenant, on le saura seulement dans 8 minutes. Hein. Donc voilà, ces grands télescopes qui regardent à des milliards d'années-lumière sont des machines à remonter le temps parce qu'on voit l'état des objets tels qu'ils étaient il y a 1, 2, 5 milliards d'années.
Puis là, vous l'avez dit, on est en train de complètement détruire notre environnement. Est-ce que vous pensez que la science a des réponses à amener ?
La science, elle n'a pas de solution à... Enfin, ouais, la technologie pourrait amener certaines solutions. Mais la réponse et la solution, c'est le comportement humain, c'est la politique. C'est pas... La science, elle est là pour montrer ce qui se passe, pour expliquer ce qui se passe. Puis dire attention, attention, prenez-nous au sérieux. Et ça commence seulement maintenant. Hein, je veux dire, les premiers qui ont commencé à tirer la sonnette d'alarme, c'était dans les années 60, le Club de Rome, qui disait attention, on va dans le mur. Eh bien, il a fallu des décennies pour qu'on les prenne au sérieux, ces gens. Donc, voilà, la science, elle est là pour montrer ce qui se passe, pour expliquer aux gens. Non, les décisions, je veux dire, taxer les avions, les voitures, etc., c'est pas à la science de le faire. Si c'est une solution.
Est-ce qu'on arrive à une énergie plus propre ?
La seule énergie propre, c'est l'énergie solaire. La seule énergie renouvelable. Alors après, elle se décline sous plusieurs, vecteurs, hein. Ça peut être l'énergie solaire photovoltaïque, ça peut être l'énergie solaire sous forme d'eau chaude, l'éolienne c'est une forme d'énergie solaire, la géothermie aussi, etc. Mais ce sont des énergies qui sont renouvelables et propres. Et il faut arrêter de brûler du carbone, quoi.
Vous êtes confiant par rapport à l'avenir ?
Des jours oui, puis des jours pas du tout. Il y a des jours, je sais pas, c'est assez dramatique. Mais le seul moyen d'y arriver, c'est de montrer l'exemple. Mais c'est vrai que quand on... L'autre jour, je suis tombé sur la statistique de la vente des voitures. On voit que la moitié des voitures vendues en Suisse sont des gros 4x4. Je me dis que, bon, bah... Là, je suis allé à Copenhague l'autre jour. Ah, ça, c'est un modèle.
Puis quelle est la position des astrophysiciens en général ?
On est des scientifiques, donc ce que racontent les autres, en général, on le prend au sérieux. Hein, je veux dire, quand les climatologues disent attention, nous on les croit. Parce qu'on sait, quelle est leur démarche, on sait quel est le travail à fournir pour arriver à ce genre de conclusion. Maintenant, alors après, je veux dire, c'est à chacun d'établir son comportement en fonction de
ouais. On a besoin croyance. De se réunir, on a besoin de créer une communauté pour faire face, non ?
Oui, bon, bah, nous, disons qu'on essaye aussi de rendre conscients les gens des dangers qu'on court. Je prends un exemple, le mois prochain, non, c'est à la fin du mois, le 26, tout le canton de Genève va éteindre l'éclairage public et la France voisine aussi, pour rendre les gens conscients des effets de la pollution lumineuse sur, sur la biodiversité, sur le comportement des animaux, de l'être humain, sur la recherche en astronomie, etc. Et ça, c'est parti d'un biologiste et d'un astronome amateur. Donc, des gens qui sont scientifiques ou très intéressés par la science, et puis qui se lance dans ce genre d'initiative. Et je trouve que là, c'est une démarche qui est très intéressante de la part de scientifiques. Alors, c'est sûr que nous, en tant qu'astronomes, on est les premiers à se mettre en avant pour ce genre de choses.
Okay. Après, pour le CAPS, vous avez des plaquettes avec des dessins d'enfants.
Oui.
C'est pour amener de l'espoir ? Quel est le message ?
Non, alors les dessins d'enfants, ça c'est une initiative, on voulait que, justement, c'est une des initiatives pour faire participer la population, pour éventuellement créer des vocations. Et puis pour montrer aux gens ce qu'on fait, pour les attirer par la voix de la jeunesse, d'expliquer ce qui se passe. Alors, cette initiative-là, en fait, elle est plutôt sympathique et a obtenu un très grand succès chez les enfants. À Genève aussi, oui. Et là, il y a à peu près 3000 dessins qui vont partir, qui ont été gravés. Et il y en a 100, je me souviens, presque 200 de Genève. Alors, ces plaques-là, justement, on va les exposer aussi à plein palais. Et ça sera une occasion de les découvrir. Et ça aussi, donc, c'est une initiative pour montrer ce qu'on fait.
Est-ce qu'il y aura des conférences aussi qui vont être organisées ?
Non. On va faire un événement public pour le lancement de Khéops. Le lancement de Khéops qui aura donc lieu à la fin de l'année. Là, on va faire une conférence suivie en direct. Là, on va en parler beaucoup. Donc là aussi, ça fait partie de ce qu'on veut faire, cette communication qu'on doit promouvoir. Parce que la question qui revient régulièrement, ouais, mais à quoi ça sert de dépenser autant d'argent pour regarder les étoiles ? Donc là, il faut aussi expliquer que la recherche fondamentale n'a pas forcément de but, pas forcément de but précis, mais des fois peut déboucher sur des applications qu'on n'imaginait même pas il y a 50 ans. Je prends l'exemple de la caméra CCD, ces petites caméras que vous avez tous sur vos téléphones portables pour prendre des photos, eh bien, ces caméras ont été développées pour l'astronomie il y a 60 ans. On n'imaginait jamais que ça pourrait devenir ce que c'est devenu maintenant. Donc, voilà.
Puis il y a des réponses, on vous apportait des réponses à des questions fondamentales.
Ouais, bon, alors après, ça, c'est... Mais ça, il y en a beaucoup qui se disent, bon, bah, après tout, les étoiles, elles ont toujours été là, à quoi ça sert de savoir Mais bon.
Est-ce qu'il y a une concurrence entre les pays ?
Bien sûr, ouais, c'est la course. Mais c'est la course, alors, oui, c'est stimulant, parce qu'il y a aussi beaucoup de collaboration, je veux dire. Mais c'est vrai que c'est la course à la découverte. Pourquoi ? Eh bien, parce que après, les gouvernements sont prêts à donner de l'argent pour financer cette recherche. Si maintenant la Suisse est connue dans le domaine des exoplanètes, si on a un pôle de recherche national où on peut engager une centaine de chercheurs, construire Khéops par exemple, c'est grâce à la première découverte qui a été faite ici à Genève.
Qui est spectaculaire.
C'est grâce à la découverte de Michel Mayor. S'il n'y avait pas eu cette découverte, donc nous, grâce à ça, on a un cran d'avance sur les autres, et ça permet de développer tout un pan de la recherche en Suisse qui aurait été inimaginable il y a 30 ans, quoi. Ça, c'est sûr. Et c'est la même chose pour les instruments. Là, les Européens sont en train de construire un instrument de 40 mètres de diamètre, les Américains 30 mètres, un télescope de 6 mètres 50 pour aller dans l'espace. C'est aussi dans ce but-là. Alors ça, après, ça génère aussi beaucoup de travail. Nous, on a un atelier de mécanique, où il y a des ingénieurs, des mécaniciens qui travaillent là-dessus. Ça génère plein de postes de travail. Et puis, ça permet aussi de développer la science et la technologie dans un pays, hein.
Quels sont les pays qui sont à la pointe? Les États-Unis?
Alors, ça dépend des domaines. C'est clair que, pour les exoplanètes, c'est clair, c'est la Suisse. Bon, il y a d'autres pays, mais en tout cas, la Suisse, c'est vraiment, c'est le spot, hein. Sinon, dans le domaine de la cosmologie, là, les Américains et les Anglais, par exemple, sont très forts. Domaine de les Français dans la recherche sur les exoplanètes en général et sur la physique des étoiles. Enfin, ça dépend. Il y a des groupes qui sont par exemple, il y a un groupe à Nice qui est très réputé dans ce qu'on appelle la mécanique céleste, qui permet d'expliquer le mouvement des planètes et des galaxies, etc. Voilà, il y a des. Mais si on veut le plus connu, ce qui se passe, c'est que les exoplanètes, ça parle tout de suite aux gens. Une planète, on sait ce que c'est. Voilà, on dit, ah, y a une planète ailleurs, la vie. Voilà, donc c'est clair que c'est quelque chose qui est plus facile à faire que la rayonisation après l'âge sombre il y a 13 milliards d'années. Vous voyez, c'est. Donc. Moi, j'ai fait mes études d'électricien au Poly. J'ai travaillé 3 ans comme ingénieur, puis j'ai dit ça, c'est pas pour moi. Et puis voilà, après, je suis revenu ici. Puis j'ai fait ma thèse de doctorat ici à Genève.
Puis vous avez travaillé en Argentine?
Ouais, puis j'ai beaucoup travaillé au Chili aussi. J'ai beaucoup observé. Donc, ouais. Je me bagarre beaucoup pour démystifier cette croyance que la recherche fondamentale, ça ne sert pas à grand-chose. Et il ne faut surtout pas promouvoir cette idée-là, quoi. Je veux dire, sans recherche fondamentale, il n'y a pas de progrès, entre guillemets. Hein, les capteurs solaires, les piles à hydrogène, tout ça, c'est des résultats de la recherche fondamentale. La pénicilline, la trithérapie contre le sida, il faut financer ça. Il ne faut surtout pas dire que ça ne sert à rien et couper les budgets dans la recherche fondamentale. Et pour moi, c'est très très important. Vous savez, on dit, ouais, l'astronomie, ça coûte un saladier, tout, c'est n'importe quoi. Le grand OLT, là, l'instrument que les Européens sont en train de construire, qui va faire 40 mètres de diamètre au Chili, va coûter en gros 1200 millions d'euros. Ça va durer 10 ans, donc ça fait à peu près 120 millions d'euros par année. Pour 400 millions d'Européens, hein, ça fait même pas 1 euro par année par Européen. Donc ça va.
Il y a beaucoup d'espoir sur Keops.
Oui, bien sûr. Ouais. Non, tout le monde était très excité à l'idée d'avoir ce. Parce qu'il y a une chose qui change, hein, c'est que c'est nous qui allons avoir les données. On n'a pas besoin de les demander. Quand vous voulez observer sur un grand télescope ou sur le Hubble Space Telescope, il faut faire une demande de temps qui passe devant une commission, qui doit être jugée, puis après on vous dit, c'est bien, c'est pas bien. Puis si c'est bien, on dit, on vous donne une journée, 2 jours. Tandis que là, c'est nous qui allons décider. On va dire, on va pouvoir...
C'est les autres qui vont venir vers nous.
Exactement. Ça va être un grand changement. Et pour nous, c'est très important. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est super excitant.